Bien, donc je vais commencer. D'abord procéder à une introduction générale des trois séances que je vais assurer. Donc une introduction générale un peu longue qui va, disons, donner la problématique de l'ensemble des trois séances. Donc c'est pour ça qu'elle sera plus longue que les autres introductions qui suivront ensuite. Donc ces trois séances ont pour objet donc le thème que j'avais donné il y a longtemps, les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Donc c'est une façon de traiter le thème transversal de l'année de l'Université populaire de Lyon, les liaisons dangereuses. Et dans ce cas, les liaisons dangereuses seront traitées avec, disons, deux types de ressources intellectuelles, la sociologie politique et la philosophie politique. La sociologie politique qui s'intéresse à l'analyse des processus politiques et la philosophie politique qui s'intéresse à la façon dont la plus souhaitable dont pourraient être constituées les cités. On a deux registres différents. Et tout ça en association avec des engagements à la fois anticapitalistes, altermondialistes et libertaires. Donc on verra que ce que j'ai voulu intégrer dans Liaison dangereuse, c'est une série de brouillages idéologiques. Mais ces brouillages idéologiques ne seront pas traités à la manière des théories du complot, c'est-à-dire comme le produit d'un plan concerté et caché de forces maléfiques. Ce serait ça les théories du complot. On verra plutôt comment ces liaisons dangereuses, ces brouillages idéologiques sont un tissu qui est fabriqué dans l'espace public par différents secteurs, souvent assez éloignés les uns des autres, parfois très opposés. C'est pour ça que c'est pas un complot, c'est pas coordonné. Donc avec des protagonistes qui peuvent être fortement opposés entre eux, et qui d'ailleurs peuvent être autant manipulés par les circonstances que des manipulateurs des circonstances. Qu'est-ce que c'est que ce tissu idéologique? C'est ce que j'appellerais aujourd'hui un néoconservatisme à tonalité xénophobe, machiste, homophobe et nationaliste. Ce néoconservatisme à totalité xénophobe, machiste, homophobe et nationaliste est en train de monter dans la société française, mais aussi dans d'autres sociétés européennes. Il n'est pas impossible de considérer qu'il pourrait devenir un jour l'idéologie des élites, l'idéologie dominante. Donc ce tissu idéologique néoconservateur qui est en train de se tisser dans l'espace public, travaillé par différents secteurs de cet espace public, produit ce que Bourdieu appelait des effets d'orchestration sans chef d'orchestre. Orchestration parce qu'il y a quelque chose de commun qui se constitue au bout du compte, sans chef d'orchestre parce qu'il n'y a personne qui manipule les ficelles dans l'ombre. Pas de grand chef coordonnateur. C'est-à-dire, donc, cette orchestration sans chef d'orchestre, la stabilisation de thèmes transversaux dans l'espace idéologique et politique, qui va d'ailleurs de l'extrême droite à l'extrême gauche, à la droite classique et à la gauche classique. Ça se travaille dans tous les secteurs de l'espace politique et intellectuel, sans que personne n'en ait organisé la coordination, l'invention. Cette façon dont émergent des formes idéologiques ou sociales, sans que ça soit quelque chose qui soit né dans la tête de quelqu'un et qui l'ait coordonné de manière explicite, c'est quelque chose d'assez courant quand on analyse les mécanismes sociaux. C'est courant pour les sociologues. Mais c'est un aspect, évidemment, auquel est le plus rétif les théories conspirationnistes. Et là, on a une forte opposition entre les schémas des sciences sociales et les schémas conspirationnistes, ce qui est une raison pour laquelle les idéologues conspirationnistes sont souvent frontalement opposés à la sociologie. J'en donnerai un exemple. C'est donc cet idéologue nationaliste et antisémite, admirateur du nazisme, Alain Soral, dont je parlerai la semaine prochaine, qui est l'une des sources intellectuelles principales de Dieudonné, dont les schémas intellectuels, une fois qu'on a lu, moi j'ai lu trois livres, une fois qu'on a lu ces livres, est assez pauvre, répétitif, peu argumenté, peu étayé empiriquement. Mais ce même auteur, Alain Soral, donc assez pauvre dans le contenu intellectuel, ne peut pas s'empêcher de se désoler de ne pas retrouver son obsession conspirationniste, manichéenne, dans l'œuvre d'un des plus grands sociologues du XXe siècle, Pierre Bourdieu, reconnu comme tel internationalement. Et c'est pour ça que dans son livre Comprendre l'Empire de 2011, Soral écrit ainsi: Pierre Bourdieu, qui malgré des milliers de pages d'enfonçage des portes ouvertes sur la domination, n'a jamais pondu une ligne sur le sujet, raison pour laquelle, sans doute, malgré l'indigence de son œuvre, il finit professeur titulaire au Collège de France. Voilà ce qu'écrit Alain Soral de Pierre Bourdieu, mais c'est typique, disons, d'une arrogance qui est basée sur la méconnaissance essentiellement, et qu'il étale avec complaisance, souvent, si pour ceux qui vont voir de temps en temps son site Égalité et Réconciliation, qu'il étale sur son canapé rouge, parce que c'est là-dessus, dans ses vidéos, qu'il s'exprime le plus souvent. Il est vrai donc que les quelques centaines de pages d'Alain Soral sur les manipulations cachées des juifs et des francs-maçons, comme source principale de nos maux, c'est quand même autre chose que les milliers de pages de Pierre Bourdieu. Donc avec Alain Soral et avec d'autres auteurs comme Éric Zemmour, il va falloir pendant ces trois séances redescendre vers le degré zéro de la pensée, mais rehaussé par contre par un haut degré de provocation dans l'ignoble, ce qui donne sans doute l'image d'intellectuel de ces personnages. Mais disons, pour le plus étrange et le plus bizarre, ce sera l'objet principal de la seconde séance. Les trois séances donc de cette année vont prendre la suite des trois séances que j'avais assumées l'an dernier sur ce qui s'était intitulé « Crise intellectuelle, morale et politique à gauche », hein, puisque c'est après avoir fait état de ces crises intellectuelles, morales et politiques à gauche que je suis amené à partir de la gauche dans le brouillard, mais la gauche allait dans le brouillard dans une conjoncture beaucoup plus difficile que dans d'autres périodes où elle pourrait être aussi dans le brouillard, c'est-à-dire des ressemblances avec la situation des années 1930. C'est l'objet, disons, de l'ensemble de ces trois séances. Donc ce brouillard de la gauche est bien la résultante des processus d'analyse que j'avais avancé l'an dernier. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver ça sur le site de l'Unipop, les versions audio des cours, et que j'avais tenté de décrypter dans un livre de 2012, La gauche est-elle en état de mort cérébrale ? Une fois posé donc cet état de quasi-mort cérébrale de la gauche et des gauches, l'élément central de cette année, c'est donc la première partie de la proposition, les années 1930 reviennent. Donc ça spécifie la conjoncture, en tout cas une hypothèse sur la conjoncture dans laquelle la gauche est dans le brouillard, et une conjoncture auquel cette gauche dans le brouillard doit s'affronter. Alors, l'expression « les années 30 reviennent » ne vise pas une identité entre l'émergence des fascismes en Europe dans les années 1930 et la situation actuelle. Cette expression « les années 1930 reviennent » vise des analogies avec les événements des années 30. Donc des analogies, c'est-à-dire à la fois des ressemblances, mais aussi des différences. Alors, une partie importante des différences, c'est justement que la gauche est dans le brouillard. C'est-à-dire que quand les fascismes se développent dans les années 1930, les gauches sont fortes. Et fortement. Tandis que les gauches aujourd'hui sont en état de décomposition. Bon. Et donc c'est un élément de différence avec les années 30, notamment il y en a d'autres. Bon. Donc pour la plus grande partie des études de sciences sociales, l'histoire ne se répète jamais. Exactement, donc il n'y a pas de substance comme le fascisme qui perdurerait à travers le temps et qui donnerait aux événements toujours la couleur du même, de la même chose. Pour les sciences sociales, les conjonctures historiques apparaissent toujours dotées de spécificités, et la comparaison entre des conjonctures différentes fait donc surgir des analogies et pas des identités, donc à la fois des ressemblances et des différences. C'est pourquoi, en plus de la rupture avec le conspirationnisme dont j'ai parlé tout à l'heure, une large part de l'approche sociologique que je vais présenter rompt aussi avec ce qu'on appelle les travers essentialistes. Travers essentialistes qui imprègnent aussi, disons, les discours néo-conservateurs qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, l'essentialisme, j'y reviendrai par la suite, c'est le fait de voir les logiques sociales et les phénomènes historiques comme des essences, hein, du mot essentialisme, essence, c'est-à-dire des entités compactes, homogènes, durables, sans contradiction ni pluralité. Et justement, un des problèmes des gauches, et pas simplement des discours néoconservateurs, des gauches dans le brouillard, c'est que les tuyaux à la fois conspirationnistes et essentialistes sont présents dans les gauches. Et ce qui rend d'autant plus difficile leur réaction par rapport au climat néoconservateur qui s'appuie notamment aussi sur ces deux tuyaux, conspirationnistes et essentialistes. Bref, si la gauche est désarmée face à la conjoncture néoconservatrice, c'est aussi qu'elle partage avec les néoconservateurs une partie des outils intellectuels défaillants, qui sont ceux des néoconservateurs. Donc mon approche à la fois analogique et anti-essentialiste, les choses ne se répètent pas comme une essence, se distingue donc, même si j'ai pu avoir de la sympathie pour ces discours, de toute une série de discours antifascistes qui ne tendent à voir dans les phénomènes actuels que la répétition de ce qui s'est passé dans les années 30. Ce qui n'évite pas toujours un certain folklorisme de la lutte antifasciste, la plus traditionnelle, qui peut tendre à exhiber le gris-gris anti-nazi comme une sorte d'amulette qui nous protégerait, disons, du retour des années 30, gris-gris accompagné en général d'une bonne batte de baseball. Loin de moi l'idée de sous-estimer, face à certains timbres identitaires qu'on trouve notamment dans l'ère lyonnaise, le rôle de protection d'une bonne batte de baseball, mais je crains que ça soit d'un secours faible face à la diffusion actuelle d'une humeur idéologique néoconservatrice et xénophobe, comme face aux avancées électorales prévisibles de l'extrême droite en France. C'est pourquoi il faudrait un mot qui dise à la fois les analogies avec les années 30, mais aussi les spécificités du contexte actuel. Provisoirement, je vais utiliser alors la notion de post-fascisme plutôt que la notion de fascisme. C'est une notion qui a été avancée par le géographe libertaire lyonnais Philippe Pelletier dans une brochure éditée il y a quelques années intitulée « Du fascisme au post-fascisme » par la Fédération anarchiste. Ma posture analogique donc visera aussi des mécanismes de production idéologique communs, mais avec des thèmes qui peuvent être différents. C'est-à-dire qu'on va retrouver des mécanismes communs avec les années 30, mais des thèmes différents, partiellement des années 30. L'analyse de tels mécanismes est esquissée de manière éclairante et encore fort utile. C'est un livre sans doute qu'il faut recommander, notamment le premier chapitre, pour comprendre la période actuelle. Le livre de Pierre Bourdieu, de 1988, L'ontologie politique de Martin Heidegger. Donc le livre de Pierre Bourdieu consacré au philosophe allemand Martin Heidegger, philosophe allemand qui a été membre du Parti national-socialiste. Et dans le chapitre 1 de ce livre, Bourdieu va s'intéresser à l'émergence de ce qu'il appelle une humeur idéologique, dite Volkisch. Volkisch vient de Volk, peuple ou nation au sens ethnique en Allemagne, ou ce qu'on appelait aussi une humeur révolutionnaire conservatrice, disons dans l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire dans la République en place entre 1918 et 1933. Pour envisager l'émergence de cette humeur, disons, idéologique révolutionnaire conservatrice, Bourdieu parle, je cite, de discours confus, syncrétiques, hein, c'est ce qu'on verra aussi pour le néoconservatisme aujourd'hui, doté de sources innombrables qui jaillissent de toutes parts. Donc une diversité de sources, pas une source coordonnée. Dans une logique qui est celle d'une, dit-il, d'une configuration idéologique faite de mots fonctionnant comme des exclamations d'extase ou d'indignation et de thèmes demi-savants réinterprétés, produits spontanés d'inventions individuelles objectivement orchestrées. Donc des mots qui ont une connotation, on pourrait dire, affectifs, qui fonctionnent comme des passeurs affectifs et qui sont réinterprétés et reproduits dans toute une série de scènes qui vont leur donner de l'importance avec des sens un peu différents. Et c'est ça qui va donner, disons, la dimension montante de cette idéologie néoconservatrice. Donc cette idéologie néoconservatrice, elle est faite de multiplicité de petites inventions individuelles qui se diffusent, mais elle est objectivement orchestrée au sens de l'orchestration sans chef d'orchestre de Bourdieu. C'est-à-dire que, à travers ces multiples interventions, petites inventions, utilisation de mots, etc., va peu à peu se stabiliser des axes transversaux. Donc c'est ce que cette orchestration sans chef d'orchestre, nous dit Bourdieu, est associée à un accord affectif, à la dimension affective qui est très importante, de fantasmes partagés qui donnent l'apparence à la fois de l'unité et de l'infinie originalité. Un accord affectif des fantasmes partagés qui donne l'apparence à la fois de l'unité et de l'infinie originalité. Et malgré les différences et les oppositions dans cet espace de production idéologique de ce conservatisme révolutionnaire dans la Main de Weimar, Bourdieu, disons, note d'innombrables rencontres thématiques et lexicologiques, c'est-à-dire les mots, les thèmes se croisent, se renforcent, dit-il, qui sont autant de renforcements mutuels. Comment se produit quelque chose qui devient en partie commun ou une galaxie commune sans que presque personne ne coordonne et ne centralise la production de cette idéologie? Ce qui lui donne beaucoup plus de force, par exemple, quand elle est reprise, réinterprétée, déplacée, par exemple aujourd'hui à travers Internet. Cette galaxie conservatrice diversifiée trouve ainsi des cohérences partielles dans cette humeur affective, dans ces fantasmes communs, mais aussi trouve des cohérences partielles dans l'opposition à ce qu'elle a pris pour cible dans la culture de Weimar. C'est-à-dire que cette idéologie néoconservatrice, conservatrice révolutionnaire, fonctionne beaucoup dans l'opposition aux autres. Elle est plus l'opposition à un certain nombre de figures que en positif. Bon. Je cite encore Bourdieu, « Elle se déduit par simple inversion de signes des propriétés de ses adversaires. » Ça dépend de la façon dont ses adversaires sont nommés. Les adversaires à l'époque de Weimar, mais il y en a certains adversaires qui sont restés les mêmes. Francophiles, juifs, progressistes, démocrates, rationalistes, socialistes, cosmopolites, les intellectuels de gauche, dont Hein constitue le symbole, appellent en quelque sorte leur négation dans une idéologie nationaliste. Donc une idéologie qui fonctionne beaucoup à l'opposition, à des marqueurs d'opposition. Alors une de mes hypothèses principales explorera donc des logiques analogues à celles analysées par Pierre Bourdieu dans la Nine de Weimar, dans la France d'aujourd'hui, mais cela pourrait être étendu plus largement à l'Europe avec des spécifications des décalages, des bémols en fonction de l'histoire des différents pays. Ainsi, une humeur néoconservatrice, à tonalité donc, je l'ai dit, xénophobe, machiste, homophobe et nationaliste, c'est l'élément commun à toutes ces productions, se consoliderait aujourd'hui dans l'espace public à travers un double canal, un canal plus officiel dans les grands médias et un canal plus underground sur Internet. Cette humeur idéologique néoconservatrice, c'est ma deuxième hypothèse, pourrait être le terreau intellectuel d'un post-fascisme, notamment sous la forme partisane du Front National. Alors, je m'arrêterai dans la séance 2 sur deux protagonistes significatifs de ce processus. Éric Zemmour, qui incarne le pôle aux tonalités islamophobes et négrophobes de cette idéologie néoconservatrice, et qui est beaucoup plus installé dans les grands médias. Il a toute une série de tribunes à la télévision, à la radio et au Figaro. Et Alain Soral, qui lui incarne le pôle aux tonalités antisémites de cette idéologie néoconservatrice, qui est plus populaire dans l'underground d'Internet plutôt que dans les médias, disons, dominants. Alors, lors de la première séance, c'est-à-dire la séance d'aujourd'hui, à travers la question de la double question de la diabolisation du monde et de la valorisation de la nation, j'envisagerai comment, non pas des intellectuels de gauche participent à cette galaxie néoconservatrice, mais plutôt comment des intellectuels de gauche, et notamment des intellectuels critiques, contribuent sans en avoir clairement conscience, et même en toute bonne conscience, à désarmer les potentialités de résistance au néoconservatrisme. Donc je pointerai une série d'intellectuels de gauche et d'intellectuels critiques qui, selon moi, désarment, disons, la gauche devant la montée du néoconservatisme. Ces intellectuels de gauche, dans la partie d'aujourd'hui consacrée au rapport entre le national et le mondial, ce seront Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Cédric Durand et François Ruffin. Lors de la deuxième séance, j'envisagerai aussi de ce que je appellerai des désarmeurs de la gauche qui introduisent des brouillages idéologiques. Deux grands désarmeurs, Laurent Bouvet en tant que proche de la galaxie du PS, qui lui aussi va brouiller les cartes et désarmer la gauche, mais là du côté d'une galaxie proche du Parti Socialiste, et Jean-Claude Michéa, plutôt situé à la gauche de la gauche social-libérale, même s'il récuse le mot gauche, on le verra, et qui lui aussi sera interprété comme un désarmeur, disons, de la gauche face à l'idéologie néoconservatrice. Hein, j'ai pris quelqu'un qui est proche de la galaxie PS et quelqu'un qui est proche de la gauche de gauche pour montrer deux types, disons, de désarmeurs de la gauche vis-à-vis du néoconservatisme. Donc il faut bien être clair ici en distinguant nettement ces deux catégories. Certains ont été effrayés parce que j'avais mis dans un même titre Soral, Zemmour, Bouvet et Michéa. Il y a protagonistes directs de la production idéologique néoconservatrice, comme Soral et Zemmour. Et puis, il y a des intellectuels de gauche qui n'ont pas le même statut, qui créent un trouble, qui contribuent à accroître le brouillard idéologique de la gauche et sa paralysie. Bon. Ça sera notamment le cas de Michéa et de Bouvet la semaine prochaine, et aujourd'hui de Todd, Lordon, Durand et Ruffin. C'est en vertu donc de cette nette différence que je combats radicalement les premiers, Soral et Zemmour. Après me mettre efforcé, on verra d'avoir une compréhension raisonnée de ce qu'ils disent, et que j'appelle les seconds à ce que le sociologue Max Weber appelait une éthique de la responsabilité, c'est-à-dire une éthique qui tient compte du contexte dans lequel tombent nos paroles et donc de leurs effets possibles, malgré leurs intentions, dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Donc ici, il s'agirait pour ces intellectuels de gauche de davantage tenir compte des risques associés au contexte néoconservateur émergent. La troisième séance sera, elle, consacrée aux dimensions proprement partisanes de ce processus avec le Front National de Marine Le Pen en tant que figure possible d'un post-fascisme en France appelant une analyse sociopolitique spécifique qu'on envisagera. Voilà, disons, pour la problématique générale de ces trois séances. Alors, une petite introduction de la séance d'aujourd'hui. Donc, qui est consacré à un retour au pluriel du national et diabolisation du mondial. Alors, je prends un certain nombre de thèmes. Démondialisation, sortie de l'euro, protectionnisme, en finir avec l'Europe, c'est des énoncés qu'on rencontre dans l'espace public aujourd'hui, à gauche et dans la gauche critique. Et on verra comment des intellectuels critiques, souvent appréciés à la gauche de la gauche, tendent à fétichiser l'État-nation aujourd'hui, comme principal cadre pour résister à la logique néolibérale du capitalisme. Ce faisant donc, c'est Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Cédric Durand, François Ruffin contribuent à désarmer cette fois-ci les potentialités, disons, de résistance internationaliste au néoconservatrisme. Face, disons, à un contexte particulier qui est le contexte de montée de ces nationalistes xénophobes d'extrême droite en Europe. Repli sur le national est un mouvement qui va à l'encontre de la vague altermondialiste née dans les années 1990. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann vient d'ailleurs d'analyser une tendance forte qu'il appelle nationale raciste dans le contexte idéologique et politique actuel en Europe. Il le fait dans un petit livre important que je recommande mais qui ne paraîtra aux éditions textuelles que début mars et qui s'appelle « Identité, la bombe à retardement ». Une analyse de la place des identités dans l'Europe d'aujourd'hui. Dans ce climat, il est tout particulièrement important de ne pas perdre ses repères afin de cultiver des résistances. Ces repères, et ça c'est le volet philosophie politique de mon travail, sont pour moi internationalistes et même, je vais expliciter le mot, cosmopolitiques. Donc je vais commencer par cette boussole, ma boussole, disons, cosmopolitique, pour ensuite critiquer les différentes figures qui sont retenues à titre d'exemple non exhaustif de cette montée du national à gauche, bon, comme référent. Donc d'abord, une boussole, une cosmopolitique pour les temps actuels. Pour critiquer une certaine fétichisation actuelle du national parmi des intellectuels de gauche et une dévalorisation corrélative de l'Europe et du monde, je m'appuie donc sur une boussole cosmopolitique qui participe historiquement à la définition de la gauche. Donc on verra deux grandes figures qui ont travaillé cette boussole cosmopolitique, Kant et pour les Lumières et Marx pour le mouvement ouvrier. Étymologiquement, le mot cosmopolitisme désigne le fait de se dire citoyen du monde. Le terme associe ainsi deux mots grecs, politesse, le citoyen, et cosmos, univers, monde. On a l'habitude de faire remonter l'origine de la notion à l'Antiquité grecque avec Diogène. Alors, une des grandes figures, disons, du cosmopolitisme, de la cosmopolitique moderne, c'est Emmanuel Kant, donc au XVIIIe siècle, dans les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières allemandes. En 1784, Kant écrit un article célèbre, Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Et Kant, en 1784, s'y déclarait favorable à la constitution d'une société des nations, qu'il envisageait ainsi, telle une communauté civile universelle. Telle une communauté civile universelle. Et il indiquait dans un autre passage du texte, ce qui donne espoir qu'après maintes révolutions et maintes changements, finalement, ce qui est le dessein suprême de la nature, un état cosmopolitique universel, arrivera un jour à s'établir. Ici, on voit que Kant hésite entre deux possibilités, hein, un regroupement d'états-nations ou un nouvel état mondial. Hein. Il y a une hésitation. Dans les deux cas, d'ailleurs, Kant restait pris dans le modèle en cours de développement à l'époque de l'état-nation. On verra que c'est quelque chose qui marque, disons, sa pensée, comme celle de Marx encore. Dans un autre livre de 1798, Anthropologie d'un point de vue pragmatique, car Kant parle d'une société de citoyens du monde, cosmopolitisme, société de citoyens du monde, idée inaccessible en soi, mais seulement un principe régulateur invitant à la suivre avec application en tant que destination du genre humain. Idée inaccessible en soi, mais seulement un principe régulateur invitant à la suivre avec application en tant que destination du genre humain. La société des nations ne serait donc pas quelque chose à réaliser tel quel, mais un principe régulateur, bref, une boussole grâce à laquelle s'accomplirait une sorte de marche universalisante de l'humanité. Un horizon par rapport auquel marcher. Hein, cet horizon d'une, disons, société des citoyens universelle. Deuxième auteur de ce cosmopolitisme, Karl Marx, qui a repris certains problèmes de Kant, mais en associant les problèmes de Kant à l'analyse de la question sociale et de l'émancipation des individus dans le cadre de la société capitaliste. Société capitaliste qui, disons, à l'époque de Marx, la forme socio-économique qui émerge au cours du XIXe siècle. Très forte en Grande-Bretagne, mais moins forte dans d'autres pays comme la France. À cause de sa logique déjà à l'époque mondialisatrice, le capitalisme et l'exploitation capitaliste, Marx vont écrire dans le manifeste communiste, Marx et Engels, dans le manifeste communiste de 1848, écrivent « Les ouvriers n'ont pas de patrie, on ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot. » Et Marx et Engels se terminaient par le célèbre « Prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Donc l'appel aux prolétaires qui n'ont pas de patrie est donc international. Mais en même temps, et on voit bien une petite tension aussi chez Marx, la construction du prolétariat en classe et la construction de son pouvoir politique se fait, disons, dans un cadre national, de l'État-nation. Parce qu'il faut pendre l'État-nation. Donc il y aurait là une tension, une torsion entre, disons, le niveau national, qui est le niveau de prise du pouvoir, et l'horizon immédiatement mondial de la lutte chez Marx. Comme Kant, la pensée marxienne ne pouvait pas complètement échapper à l'époque à la prégnance des États-nations modernes qui étaient en développement. Aujourd'hui, où les États-nations apparaissent davantage en recul, il est peut-être possible, et sont beaucoup plus anciens, disons, il est peut-être possible de déplacer les choses par rapport à Kant et à Marx, en rendant, en tout cas, moins irréaliste l'horizon d'émancipation mondiale. En tout cas, quelle que soit l'hypothèse qu'on fasse là-dessus, tant Kant que Marx constituent encore aujourd'hui une invitation à utiliser une boussole cosmopolitique, pas nécessairement à réaliser immédiatement une société universelle des citoyens, mais d'utiliser une boussole cosmopolitique. Boussole cosmopolitique qui sert du côté de l'analyse de ce qui existe pour, on va dire, dénaturaliser l'évidence et la supposée éternité de l'État-nation. L'État-nation n'a pas toujours existé, il pourrait ne pas exister. Si l'horizon souhaitable, c'est une société universelle de l'humanité, ça nous rend moins évident et moins naturel et moins nécessaire et moins éternel, disons, l'État-nation. Ça, du côté de l'analyse, voilà en quoi cette boussole nous sert. Et cette boussole cosmopolitique, empruntée à Kant et à Marx, nous sert du côté de l'action comme une incitation à développer des solidarités internationales nous rapprochant de l'horizon mondial. Non pas d'atteindre immédiatement la société universelle des citoyens, mais de développer des solidarités mondiales qui nous fassent arriver vers, disons, l'horizon mondial. Donc une incitation à la fois sur le plan de l'analyse et une incitation sur le plan de l'action, cette boussole cosmopolitique, qui est au cœur, disons, d'une tradition importante de la gauche, Kant, les Lumières, Marx, disons, le mouvement ouvrier radical. Alors on va comparer maintenant cette boussole avec ce retour du national aujourd'hui dans la conjoncture française en tout cas, mais plus largement européenne, on l'a vu récemment avec le vote suisse. D'abord, on va envisager le thème de la démondialisation. Alors, je vais passer par un politicien d'abord et revenir à un intellectuel. La démondialisation de Montebourg à Todt. Alors, sur le thème de la démondialisation, beaucoup discuté à partir de 2011 en France. C'est 2011, l'année de la démondialisation. On en discute beaucoup. Je m'arrêterai d'abord sur un politique, donc Arnaud Montebourg, et sur un intellectuel, Emmanuel Todt. Il se trouve que Todt a préfacé le livre de Montebourg sur la démondialisation, donc il y a un lien entre les deux. La démondialisation, à l'époque, s'oppose à l'altermondialisme. Clairement, c'est pour ça qu'une association comme ATTAC est hostile au thème de la démondialisation. Pourquoi la démondialisation s'oppose à l'altermondialisme? L'altermondialisme, c'est affirmer qu'il y a d'autres mondes possibles que le monde du capitalisme néolibéral, et donc l'altermondialisme situe les alternatives au niveau local, national et mondial, donc il y a un niveau mondial pour situer les alternatives. C'est la spécificité de l'altermondialisme, disons, qui émerge avec la fin des années 90, création d'ATTAC en France, d'ATTAC France en juin 1998, forums sociaux mondiaux, le premier forum social mondial à Porto Alegre a lieu en janvier 2001. Donc on situe les alternatives au niveau local, au niveau national, au niveau mondial. La démondialisation s'est proposée au contraire moins de monde et plus de nations face à la mondialisation néolibérale. Donc on a deux stratégies différentes, qui est la stratégie de la démondialisation et la stratégie altermondialiste. Alors, Arnaud Montebourg est apparu lors de la primaire socialiste de 2011 comme une aile gauche auquel nombre de sympathisants des gauches radicales, d'ailleurs, à ma connaissance, ont apporté leur vote. Pourtant, dès son livre à succès donc de 2011, « Voter pour la démondialisation », c'est le titre du livre de Montebourg, il a alimenté ce que j'appellerais un café du commerce chauvin, typique de la période. Par exemple, il explique dans son livre que, contrairement, je cite, à notre grand et beau pays, la France, les Chinois sont voleurs et les Allemands égoïstes. Aujourd'hui, notre ministre du redressement productif, ambassadeur du Made in France, s'adonne encore un peu plus dans ses fonctions. Il ne parle plus tellement de démondialisation, mais l'inflation corcardière et productiviste d'ailleurs a augmenté. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, Montebourg n'aurait pas vu d'un mauvais œil que l'on ferme l'usine automobile Peugeot de Madrid pour sauver celle d'Aulnay. C'est une suggestion qu'il a faite dans un entretien sur France Inter le 13 septembre 2012, alors qu'il était déjà ministre. Il expliquait ainsi, à propos des sites d'Aulnay de Madrid, de Peugeot, « Personnellement, je préfère qu'on privilégie les fermetures hors France plutôt qu'en France. Donc une stratégie qui consiste à déshabiller Pedro, espagnol, pour habiller Pierre, français, dans le cadre, disons, de la compétition instable et aléatoire pour, comme on dit, gagner des parts de marché. N'est-ce pas justement le cadre même de la mondialisation néolibérale? Comment s'offusquer alors que l'Espagne fasse de même dans la compétition en essayant de déshabiller Pierre, français, pour habiller Pedro, espagnol? Et qu'est-ce qu'on gagnait à terme, hors d'une victoire ponctuelle et réversible, quelques mois, une victoire donc à la Pyrrhus, dans tel ou tel secteur, les salariés français et espagnols à cette compétition entre intérêts nationaux sur un marché mondial capitaliste arbitré par la logique du profit? Une des sources, disons, de la démondialisation politique, Arnaud Montebourg, une des sources intellectuelles, le démographe Emmanuel Todd. Donc lui aussi partisan de la démondialisation et préfacier du livre « Voter la démondialisation » d'Arnaud Montebourg. Bien qu'ayant aidé Jacques Chirac à inventer la fracture sociale pour la campagne présidentielle de 1995 et l'ayant aidé à se faire élire, Emmanuel Todd a souvent une image de gauche critique. Dans un entretien du 13 décembre 2011 sur le site de l'hebdomadaire Marianne, il oppose par exemple, je cite, « à la grandeur de la culture française, associée à la notion d'homme universel », je cite, « la vision ethnique de l'économie et la culture autoritaire à l'œuvre dans le monde germanique ». Ces différences, disons, entre la grandeur de la France et l'autoritarisme de l'Allemagne, plongeraient leurs racines dans les structures, dit-il, familiales originelles. C'est dans la façon d'agencer les familles depuis la nuit des temps qu'il y aurait, disons, cette différence forte entre la grandeur de notre pays et la faiblesse de l'Allemagne. On a là ici ce qu'on appelle en sciences sociales un culturalisme essentialiste aux allures savantes qui découpe des cultures originelles sur un long terme, germanique, française, compacte, fermée, stable dans le temps, bref, ce qu'on appelle des essences et qui domine donc le discours d'Emmanuel Todd. Les sciences sociales contemporaines ont depuis longtemps invalidé cette vision figée de culture homogène. C'était une vision qui avait une certaine force, disons, entre les années 1920 et les années 1950 aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle donc justement le culturalisme, mais qui a été remis en cause depuis dans les sciences sociales. Ces sciences sociales donc ont depuis longtemps invalidé cette vision figée de culture homogène pour analyser des ensembles culturels beaucoup plus composites, métissés, marqués par des emprunts réciproques et des contradictions entre les différents ensembles culturels. Ça, c'est plutôt la vision des sciences sociales contemporaines. Cependant, malgré l'écart entre, disons, la vision un peu archaïque d'Emmanuel Todd et l'état des sciences sociales, les livres d'Emmanuel Todd sont souvent des succès de par leur apparence savante et critique, même s'il a aidé Jacques Chirac à être élu. Todd s'est ensuite allié à un économiste réputé beaucoup plus radical que lui, Frédéric Lordon, pour appeler récemment à la sortie de l'euro en développant, disons, un peu plus, disons, ses tentations franchouillardes. C'est un entretien conjoint, toujours sur le site de Marianne, du 6 juillet 2013. Je cite Todd, « Nous, Français, avons besoin de nous retrouver entre nous, avec nos bonnes vieilles luttes des classes, avec notre fantastique diversité culturelle, avec notre État et avec notre monnaie. » Donc, assez proche, disons, de la fétichisation franchouillarde qu'on trouve chez Arnaud Montebourg. Première figure, disons, de ce que j'appellerais la fétichisation du national dans le débat public à travers des intellectuels dits critiques. Deuxième type de courant, c'est trois figures radicales qui, je dirais, atterrissent dans le cocoon national. Je dirais atterrissent parce que, en général, ce sont des économistes atterrés, comme on dit aujourd'hui. Alors, positionnés plus radicalement que Todd sur l'échiquier intellectuel et politique, trois auteurs vont aussi participer à fétichiser le niveau national. Il s'agit donc de Frédéric Lordon, Cédric Durand et François Ruffin. Donc Lordon est le coéquipier de Todd contre l'euro, économiste atterré, vedette intellectuelle des gauches radicales. C'est aussi à plusieurs reprises épanché en faveur d'une solution nationale face à la mondialisation néolibérale. C'est notamment le cas lors d'un débat public organisé par Attac le 15 janvier 2012, intitulé « L'ordre d'être notre démocratie », où l'ordon s'est opposé aux animateurs d'attaque sur l'orientation de la politique, disons, économique. Attaque défendant tout genre, disons, la défense d'une réponse aussi internationale. Pour l'ordon, je cite, il faudrait en revenir à la configuration nationale. Pourquoi ? Parce que ce serait plus apte à permettre l'expression de la souveraineté populaire. Ici, l'ordon confond deux choses, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, comme si la souveraineté populaire serait à jamais la souveraineté nationale. La souveraineté populaire n'est pas toujours la souveraineté nationale et il n'est pas sûr qu'elle le demeure tout le temps. Et puis il va associer surtout le point de vue dit cosmopolite qui va être critiqué, qui va être associé aux ce qu'il appelle les privilégiés du capital économique et du capital culturel, hein, vous savez, ceux qui sont dans des jets et qui circulent dans le monde. Mais il oublie quelque chose qu'ont bien mis en évidence une série de sociologues, je pense notamment aux travaux dans la logique de Bourdieu de la sociologue Anne-Catherine Wagner, notamment dans son petit livre « Les classes sociales dans la mondialisation » de 2007, où elle met en évidence l'importance des ressources cosmopolites des classes populaires, et pas simplement des élites, qui a été traversée par diverses vagues d'immigration. Ressources cosmopolites qui, notamment, sont liées au bilinguisme ou parfois au trilinguisme et au maintien de relations avec, disons, les pays d'origine, avec toutes ces vagues d'immigration qu'on connaît en France. Donc, en fait, les classes populaires ont énormément de ressources cosmopolites aussi. Mais ces ressources cosmopolites sont, disons, en général dévaluées et dévalorisées, alors qu'effectivement, dans l'espace public, le manager qui circule en jet est valorisé. Mais en tout cas, il y a aussi du cosmopolite dans les classes populaires. Par ailleurs, l'ordon n'a pas hésité à charger un peu plus la barque nationale en stigmatisant dans cette même réunion d'attaque, de manière toujours essentialiste, hein, l'essentialisme c'est un des carburants qui fait fonctionner l'ensemble, en stigmatisant de manière essentialiste la croyance monétaire allemande, pas seulement d'ailleurs la croyance monétaire des élites économiques et politiques allemandes, mais celle supposée, dit-il, de l'ensemble du corps social allemand. Croyance monétaire allemande qui serait dotée d'une forte profondeur historique, hein, qui serait là depuis longtemps, un peu comme les structures familiales qui, disons, feraient la grandeur de la France et, disons, l'autoritarisme de l'Allemagne chez Todt. Or, justement, juste avant que l'ordon prenne la parole, j'étais là ce jour-là dans cette salle, un représentant d'Attaque Allemagne venait de critiquer son gouvernement et la politique monétaire allemande, à la même table, juste avant. L'ordon n'en a pas vraiment tenu compte. Hein. Il a dû considérer que c'était un Allemand, pas comme les autres. Bon. Et donc, on peut se demander si, à force d'être atterré, l'ordon est peut-être devenu sourd aux paroles internationalistes. Deuxième auteur, Cédric Durand, autre économiste atterré. Il vient de la LCR et du nouveau parti anticapitaliste qu'il a quitté pour rejoindre le Front de Gauche. Il a dirigé en 2013 le livre collectif « En finir avec l'Europe ». Le livre éclaire certes les aspects les plus contestables des institutions européennes réellement existantes, disons c'est la petite partie intéressante du livre, mais il le fait de manière unilatérale dans une diabolisation totale de l'Europe qui construit alors implicitement la nation comme seul rempart. Les auteurs du livre, puisque c'est un livre collectif, hein, coordonné par Cédric Durand, remettent en cause alors la thématique jusqu'alors majoritaire dans les gauches critiques, de l'autre Europe. Cette autre Europe n'est plus possible, donc c'est pour ça qu'il faut revenir à la nation. Ils balayent d'un revers de main aussi ce qu'ils appellent les variantes soi-disant de gauche de l'idéologie européiste, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir une vision de gauche de l'Europe. Le projet européen, c'est simplement le projet des classes dirigeantes et du capitalisme. Et ils mettent en cause... Il développe une posture sceptique sur l'impossibilité ce qu'ils appellent une européanisation de la protestation, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de mouvements sociaux européens, d'où la nécessité, disons, de se replier sur la forme nationale. Puis, Cédric Durand défend dans son épilogue des mesures de protectionnisme national, c'est les seules mesures qu'il défend, hein, les mesures de repli national, de protectionnisme, qui va d'ailleurs distinguer de manière assez floue avec ce qu'il critique comme étant la réponse souverainiste et nationaliste. Alors, il va considérer que quelqu'un comme Todt est souverainiste et nationaliste et lui ne l'est pas. Bon. Mais c'est pas assez très clair la différence entre ce protectionnisme national et la réponse dite souverainiste et nationaliste. Ici, dans ce livre coordonné par Cédric Durand, il y a une défaillance du point de vue de l'éthique de responsabilité dont j'ai parlé en m'appuyant sur Max Weber. C'est de se contenter d'une phraséologie internationaliste assez vague, tout en s'engluant pratiquement dans des mesures qui sont seulement nationales. Il n'y a pas alors dans ce livre de médiation envisagée entre ce repli national effectif et l'horizon international qui est maintenu mais rhétoriquement uniquement. Aucune stratégie internationale alternative à l'Europe capitaliste n'est proposée. Soit une stratégie dans l'Europe, soit une stratégie à l'extérieur de l'Europe. Par exemple, on pourrait penser que l'Europe c'est trop contraignant et donc il faudrait ouvrir des solidarités internationales avec d'autres pays qui essayent de décrocher du néolibéralisme dans l'Amérique latine et ailleurs. Donc on pourrait développer d'autres types de stratégies internationales que la stratégie européenne. Mais dans le livre, il n'y a aucune stratégie internationale alternative, ni à l'intérieur de l'Europe, ni à l'extérieur de l'Europe. Donc, aucune stratégie internationale alternative à l'Europe capitaliste n'est proposée. Les mesures nationales proposées, donc, ne sont pas associées à des solidarités internationales à constituer. Elles sont en rupture avec la boussole cosmopolitique. Bref, ce livre contribue à déconstruire l'imaginaire européen en enterrant en pratique les autres mondes possibles altermondialistes au profit pratique d'un réalisme finalement étriqué parce que national. Deuxième auteur. Troisième auteur radical, François Ruffin. François Ruffin est aussi une vedette plutôt journalistique dans les milieux de la gauche critique et radicale. Il est co-créateur du journal Fakir, initialement à Amiens, et ancien reporter, il y a très peu, à l'émission produite par Daniel Mermet sur France Inter, là-bas, si j'y suis. François Ruffin est aussi, comme Lordon, donc une des icônes de ces gauches critiques. Il est devenu un des principaux chantres depuis quelques années du protectionnisme national. Dans un article d'ailleurs publié dans Le Monde Libertaire en décembre 2013, il s'est mis sous l'égide d'une phrase de l'économiste britannique John Maynard Keynes, qu'il fait sienne. J'ai de la sympathie, c'est la phrase de Keynes qu'il reprend à son compte, j'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations. J'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations. Donc, disons, les relations économiques entre les nations sont plutôt une mauvaise chose et donc il faut plutôt les diminuer plutôt que les augmenter. Dans ce texte, Ruffin appelle aussi, toujours dans la logique du protectionnisme national comme solution, à ne pas laisser, je cite, le thème du produire français au Front National. Et donc, batailler avec le Front National pour avoir un produire français alternatif face au produire français du Front National. On voit d'ailleurs mal, par contre, le Front National nous disputer « L'international sera le genre humain » de la chanson de Jean Pauzier de 1871. Et croire qu'on pourrait sauver les seuls travailleurs français dans la mise en concurrence internationale des salariés, c'est sans doute naïf économiquement et dangereux dans un contexte favorable à ce que, je rappelle, Jean-Claude Kaufmann appelle, disons, la montée du national-racisme aujourd'hui. Voilà, disons, toute une série d'auteurs qui contribuent, disons, à créer une évidence du retour au national, à fétichiser le national et à diaboliser le monde, et ce qui sont des auteurs réputé critique dans la galaxie de la gauche. Alors, on va voir maintenant, dernière partie de mon propos, comment une série de tendances marque, disons, ce type de discours, qui sont des tendances aussi qui participent à ce que j'ai appelé la mort cérébrale de la gauche, qui vont favoriser la fétichisation du national. Trois tendances que j'ai repérées dans ce livre « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» disons, participent à consolider cette fétichisation du national auquel participe une série d'intellectuels critiques de gauche aujourd'hui, l'essentialisme, l'étatisme et la diabolisation des médias. Alors, le premier impensé de la gauche et de ces fétichisations du national, l'essentialisme. Je reviens, je l'ai un peu défini en introduction, mais je vais y revenir un peu plus. L'essentialisme, ça vient d'essence, où on parle aussi de substantialisme, associé à la notion au mot substance. Ça se présente comme une des pathologies intellectuelles actives, à gauche d'ailleurs, à droite aussi, parmi sans doute les plus profondes, les plus structurantes, les moins visibles, les plus difficiles à comprendre. L'essentialisme ou le substantialisme, c'est voir le monde à travers donc des entités homogènes et durables, de manière insensible à la diversité dans les logiques sociales et historiques qu'on peut observer, de manière insensible aux contradictions des phénomènes. C'est une modalité puissante du manichéisme, avec la mise en scène des sens négatifs, les plus nombreux aujourd'hui, souvent diabolisés, et la mise en scène des sens positifs. Dans ce cas-là, le positif, c'est la nation, et le négatif, c'est le monde. On a vu particulièrement des traces précédemment de cet essentialisme chez Montebourg, chez Toth, chez Lordon et chez Durand. Globalement, le monde et l'Europe sont présentés comme des essences négatives et la nation comme une essence positive, soit explicitement chez Montebourg, Toth et Lordon, soit implicitement chez Durand. C'est-à-dire qu'il ne va pas valoriser la nation, mais implicitement, comme c'est la seule solution, elle est implicitement valorisée. Un des plus grands philosophes, disons, du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, a associé cette tendance simplificatrice de l'activité intellectuelle à un écueil dans nos usages ordinaires du langage. C'est ce qu'il appelle, de manière un peu barbare, mais je vais l'expliciter, la recherche d'une substance qui réponde à un substantif. C'est comme ça qu'il définit le substantialisme ou l'essentialisme. La recherche d'une substance qui réponde à un substantif. Une substance, c'est comme une essence, une entité compacte, homogène, durable, et un substantif, c'est un nom. Donc, un substantif, c'est un mot comme l'amour, l'État, le monde, l'Europe, la nation, la France, ou l'islam, ou les juifs, etc. Voilà des substantifs. Et le substantialisme, c'est une tendance automatique à chercher derrière chaque substantif une substance ou une essence. De chercher derrière l'Europe une essence positive ou négative, derrière la nation une essence positive ou négative, derrière l'islam une essence positive ou négative, derrière les juifs une essence positive ou négative, etc. C'est-à-dire donc une entité homogène, durable, avant même d'ailleurs d'avoir enquêté sur le phénomène pour savoir s'il n'est pas plus divers et contradictoire qu'il n'y paraît. Et Wittgenstein, pour identifier cet écueil intellectuel, cette maladie intellectuelle même, parle significativement de constant désir de généralisation. C'est une façon de généraliser. Si on dit l'islam, on dit c'est positif ou c'est négatif, on généralise. Si on dit les juifs, on dit positif ou négatif, on généralise. Si on dit l'Europe, si on dit la nation, c'est pareil. Ou si on dit la France. Ce constant désir de généralisation, nous dit Wittgenstein, c'est aussi, nous dit-il, un mépris pour les cas particuliers. Pour ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de généralisation hâtive. Premier conducteur qui favorise cette fétichisation du national, mais qui est aussi plus largement un handicap intellectuel largement présent à gauche, c'est l'essentialisme. Deuxième impensé à gauche et dans, disons, cette fétichisation du national, c'est l'étatisme qui a des intersections avec l'essentialisme, on va voir. L'étatisme, c'est la focalisation politique sur les institutions étatiques, proprement étatiques. C'est l'idée, en fait, que la politique, c'est surtout ou que le rapport aux institutions étatiques, à ce qu'on appelle l'État. Et avec l'étatisme, on a du mal à penser la politique indépendamment, donc, de ces institutions étatiques. Cela renvoie d'ailleurs à la grande difficulté à gauche, dans la gauche social-libérale de gouvernement, mais aussi dans les gauches critiques et radicales, à envisager une politique qui se ferait à partir de la vie ordinaire et qui ne ferait pas des institutions étatiques leur cœur, comme c'est la plupart des politiques, disons, de gouvernement ou alternatives. Dans le cas de nos intellectuels qui fétichisent le national, ces intellectuels critiques, l'étatisme, c'est le fait d'accorder l'attention principale à la confection de mesures qui sont applicables à l'État-nation, qui serait le seul État où pourraient s'appliquer des mesures politiques. Plutôt que, par exemple, de s'orienter principalement sur la constitution de mouvements sociaux à l'échelle européenne ou internationale. On propose des mesures à appliquer à l'État plutôt que de constituer des mouvements sociaux. Parce que la vraie politique, dans ce cas-là, elle est étatique, elle est étatiste, et la politique, elle n'est pas dans les mouvements sociaux, dans cette vision des choses. Elle ne se fait pas avec les citoyens à la politique, elle se fait par des experts qui proposent des mesures qui vont remplacer d'autres mesures. Si l'on regarde d'ailleurs l'histoire des gauches radicales depuis la Seconde Guerre mondiale, les intellectuels critiques ont pourtant plus de probabilité de peser sur les mouvements sociaux que sur les politiques étatiques, en tout cas s'ils restent critiques, qui est en général hors de leur portée, hors du seul niveau rhétorique. Pourtant, ces intellectuels critiques sont tentés de surestimer la place du second, la place des mesures destinées aux institutions étatiques, comme s'ils avaient eux-mêmes, en leur fort intérieur, une âme de gouvernant ou de conseiller du prince, ou comme si un Lénine sommeillait en chacun. Et il n'est pas alors étonnant qu'il soit si difficile d'effectuer à gauche une critique radicale de l'État moderne et des rapports gouvernant-gouvernés qui structurent l'État moderne, alors que la seule critique du capitalisme apparaît plus aisée que la critique de l'État moderne. Pour ce faire, pour critiquer à la fois le capitalisme et l'État moderne, il faudrait, selon les mots de Pierre Bourdieu, dans un cours très important intitulé « Sur l'État » mené au Collège de France entre 1989 et 1992, pour ce faire, il faudrait, selon les mots de Bourdieu, échapper à la pensée d'État sur l'État. Échapper à la pensée d'État sur l'État. Or, ces intellectuels critiques n'échappent pas à la pensée d'État sur l'État, ils sont dans l'évidence étatiste. Troisième, impensée et pathologie intellectuelle qui, à la fois, est plus large à gauche et qui va contribuer à cette fétichisation du national chez les intellectuels critiques, la diabolisation des médias. Dans l'article que j'ai cité de François Ruffin, il nous met directement sur la voie des dégâts intellectuels de la focalisation de la critique sociale la plus courante, c'est-à-dire la dénonciation simpliste des médias. Hein, c'est la faute aux médias quand il y a un problème. Or, que nous dit Ruffin ? Il nous dit « Le refus du protectionnisme ne peut être, selon lui, que le triomphe de la propagande promue par les économistes de garde. » Donc, le fait de refuser le protectionnisme, ça ne serait que l'effet de la propagande des médias dominants. Bon. Et donc, ça voudrait dire que les animateurs d'attaque, les altermondialistes plus généralement dans le monde, ou les anarchistes seraient, en fait, dévendus à TF1. Dans ce type de rhétorique routinière, il suffit que l'on mette une idée du côté des médias dominants, qui sont méchants bien sûr, pour qu'elle soit suspecte. Et donc si on l'a mis du côté du média dominant, c'est qu'elle est fausse. Bon. Indépendamment de toute boussole, disons, éthique et politique qui nous permettrait de juger de la validité ou de la non-validité de ces idées. C'est le simple proximité avec les médias qui la rend mauvaise. Bon. La critique manichéenne des médias s'est ainsi largement transformé en paras intellectuel de notre temps, auréolé de parfums conspirationnistes qui sont, assez dans l'air de l'odorat critique contemporain. On observe aujourd'hui clairement ces ravages, avec les succès sur lesquels je reviendrai, de la rhétorique du politiquement incorrect, des Dieudonné, Soral et autres Zemmour, dont je reparlerai. En tout cas, la supposée évidence du lieu commun critique, c'est la faute aux médias, permet à Ruffin et à d'autres de faire mieux passer la pilule nationale dans les gauches critiques et radicales, puisque si on est contre le national, c'est qu'on est, victime de la propagande des idées dominantes et des médias. Alors, en guise de conclusion de cette séance, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas pour moi ici de saisir de manière essentialiste la nation ou la France comme quelque chose de négatif, comme des blocs homogènes, totalement nuisibles. Il y a bien diverses conceptions politiques de la nation, et les différentes nations qui existent se caractérisent par des contradictions. C'est pourquoi, pragmatiquement, on peut s'appuyer sur ces contradictions qui travaillent les nations pour faire avancer l'émancipation. Par exemple, on peut s'appuyer sur les services publics dits à la française. On peut s'appuyer sur l'impact de la prise de conscience écologique en Allemagne, beaucoup plus grande qu'en France. On peut s'appuyer sur les avancées de l'égalité des sexes dans les pays nordiques. On peut s'appuyer sur les mouvements sociaux grecs contre l'illégitimité de la Grèce, de la dette. On peut s'appuyer sur les indignés espagnols pour davantage de démocratie. Au-delà du cadre européen, on peut s'appuyer sur l'imbrication des dimensions locales, nationales et mondiales dans le zapatisme présent au sein du Chiapas mexicain. Ou encore dans le traitement de la question indienne dans la Bolivie progressiste présidée par Evo Morales. Ou encore, on peut s'appuyer sur la place des jeunes diplômés chômeurs précaires dans les processus révolutionnaires inachevés en Tunisie et en Égypte. Mais si on fait ça, on s'appuie sur les contradictions qui traversent chaque nation et on va s'appuyer sur des éléments positifs pour l'émancipation de telle ou telle nation et on ne va pas s'appuyer sur l'essence bonne de la France ou l'essence bonne de la Grèce ou l'essence bonne de la Bolivie, etc. etc. Ça n'a rien à voir. J'ai plutôt voulu pointer donc le fort risque actuel à gauche de rétrécir subrepticement son horizon mental à un national qui est essentialisé positivement. Et corrélativement, le risque de ne plus voir les fils cosmopolitiques de nos avenirs possibles, en diabolisant le monde. Ce qui est particulièrement dangereux dans un contexte de montée des nationalismes xénophobes. Ce type de discours serait en fait peu risqué dans un autre contexte, si on était par exemple dans le contexte de la fin des années 70 ou dans le post-68, où il pourrait y avoir des discours nationaux à gauche, des discours internationaux, etc., mais on n'était pas dans une situation de montée des nationalismes xénophobes. Là, cette réification de la nation intervient dans un contexte très particulier qui est la montée des nationalismes xénophobes. Car donc ces discours critiques envisagés vont participer, ceux de Todd, Lordon, Ruffin, Durand, vont participer à la fétichisation en cours du national comme seul cadre d'action politique possible et à la délégitimation des niveaux d'action internationaux. Or, ils vont le faire certes avec une conception républicaine et démocratique de la nation qui est très éloignée de l'extrême droite, mais alors que le rapport de force idéologique et politique est plutôt nettement favorable au nationalisme d'extrême droite du côté des discours sur la nation. Donc dans un rapport de force défavorable. Ce n'est pas eux qui sont en avance, disons, mais c'est les autres qui sont en avance sur le discours national. C'est comme si, sans le vouloir, ils ajoutaient des forces au nationalisme, qu'ils disent par ailleurs combattre, et qu'ils affaiblissaient les potentialités internationalistes de résistance. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire avant que prenne place le débat dans cette première partie, disons, de cette interrogation sur, disons, ce retour des années 1930, hein, qui a des ressemblances, mais qui n'est pas exactement les années 1930. Pour toute une partie de ce que j'ai dit aujourd'hui, vous retrouverez un article synthétique dans un numéro hors série du Monde Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, qui apparaîtra en mars 2014 avec toute une série de textes sur le protectionnisme et le national, et notamment mon texte, mais aussi un texte de Jean-Marie Arribé, un des animateurs d'attaque contre la thématique du protectionnisme, justement. Voilà, et maintenant on peut passer au débat.